France Inter.
Ce qui compte pour un acteur, c'est la personnalité. Sa présence.
Vous répondrez non, ça serait de la bêtise.
Si tu veux être dans un de mes films, il faut que ça coule dans tes lèvres. Ok ?
Ça peut couler, hein.
On en reparle. Tout.
Allez, action !
Action, pourquoi faire ?
Je fais aussi des films pour savoir si je pourrais ou si j'aurais pu devenir un salaud. Alors, question, pourquoi et comment passe-t-on de l'autre côté ? C'est tout l'enjeu de ce grand film sur notre affiche ce matin. Bonjour tout le monde et salut Laurent.
Bonjour Christine, bienvenue à tous.
Une surveillante dans une prison en Corse va se retrouver impliquée dans un règlement de compte entre bandes rivales. Bonjour Stéphane de Moustier.
Bonjour.
C'est le pitch de votre troisième long-métrage Borgo, un film policier et un film de prison, tendu à l'extrême et en son cœur, une femme assez mystérieuse. Bonjour Afsia Herzi.
Bonjour.
Mélissa, oui, une femme dans cette micro-société très masculine et sans cesse dans un rapport de force. Borgo est inspiré d'un fait divers, l'assassinat de deux figures du milieu en Corse, en 2017, bonjour Pascal Garbarini.
Bonjour.
Avocat pénaliste et cinéphile. Vous défendez notamment les nationalistes corses et vous avez coécrit avec Stéphane de Moustier ce scénario si crédible de bout en bout. Borgo, sur nos écrans mercredi prochain. Enfin, les sorties de la semaine dominées par le cinéaste japonais Hamaguchi avec ce film Le mal n'existe pas. C'est parti.
France Inter. On aura tout vu. Christine Masson et Laurent Delmas.
C'est normal qu'il ait un goûteur, lui.
Eh lui, c'est Rossi. Il est complètement parano. Tu verras, c'est le seul qui a toujours sa porte fermée. Alors que c'est peut-être ici le seul endroit où il soit en sécurité.
Vous êtes l'excellence de la paix.
C'est la paix des braves, mais bon, il a un goûteur.
C'est quoi ça, la paix des braves?
La paix des braves, c'est comme un pacte de non-agression, mais à l'intérieur de la prison. C'est tacite, mais bon, ça tient depuis des années.
Donc il n'y a pas de clan dans la prison?
Si, si, bien sûr. Ils sont tous plus ou moins rattachés à un clan, là, quel que soit leur âge. Mais bon, le temps de la détention, ils vivent les uns à côté des autres sans s'agresser.
Borgo de Stéphane de Moustier avec nous ce matin, Mélissa. C'est vous, Afsia Herzi, vient de s'installer en Corse avec ses deux enfants et son mari et découvre le centre pénitentiaire de Borgo, Matone, dans une prison d'hommes dans laquelle, dit-on, ce sont plutôt les prisonniers. Tous Corses qui surveillent les gardiens. Son intégration sera facilitée par Saverio, un jeune détenu influent et qui la place sous sa protection et l'entraînera dans une spirale criminelle. Même si le film est une fiction, à l'origine c'est un fait divers, Pascal Garbarini. On peut le résumer en deux mots ?
Oui, on peut le résumer en deux mots. C'est une décision qui a été prise à un moment donné d'éliminer des personnes qui manifestement avaient un contentieux avec d'autres.
Oui, d'accord, ok. Mais bon, et donc ces deux personnes qui voulaient en éliminer deux autres étaient dans une prison, dans laquelle était la gardienne Cathy Sénéchal, puisqu'il s'agit d'elle. Et à cet aéroport de Bastia, en 2017, elle va donner le baiser de la mort, à savoir en embrassant un homme, elle va l'indiquer donc au tueur.
C'est exactement ça. C'est à partir de ce moment-là que le film est né, puisque en réalité, ce qui était important, c'est pas vraiment le fait divers. C'est ce qui est important dans ce film. Moi, qui suis passionné de cinéma, et il n'y a que le cinéma qui m'intéresse en l'espèce, c'est ce baiser de la mort. Voilà. D'ailleurs, le film aurait pu s'appeler également Le baiser de la mort, parce que c'est à partir de ce moment-là que la personne qui donne le baiser de la mort a un rôle et une intervention qui est fascinante pour le cinéma. C'est l'histoire, elle est fabuleuse, puisque on est toujours, j'adore cette phrase, c'est rien ne prédestinait cette personne à. Vous savez, c'est héros ordinaire. Alors là, c'est pas bien évidemment un héros au sens noble du terme, quoique.
C'est-à-dire, il y a quoi dans ce quoique?
Pour certains, peut-être.
En tout cas, moi, ce que je tiens à dire, c'est que le fait divers, il a agi comme un déclencheur pour faire une fiction et pour investir, mais m'approprier et investir sur le champ de la fiction, un personnage. Moi, ce qui m'excitait dans ce projet, ce qui m'intéressait, c'était ce personnage qui, en quelques mois, passe d'une vie ordinaire à complice du grand banditisme, Il y a un mystère là-dedans. Je crois pas en la figure du monstre. Je pense que les monstres n'existent pas. Et donc, je voulais explorer ce mystère. Et c'est la proposition du film.
Et cette femme, en fait, c'est un regard du continent. C'est un peu vous aussi. Votre regard sur la Corse.
J'avais envie depuis toujours, mais quand on fait des films, on a des envies. Et je voulais faire un jour un film en Corse parce que c'est un territoire qui m'attire. C'est un pays qui a beaucoup de caractère, etc. Et évidemment, je suis pas corse. Et avec cette histoire, j'avais une porte d'entrée. C'est-à-dire que je rentre avec ce personnage de Mélissa en Corse. Et avec elle, je découvre ce territoire dont je comprends pas la langue, dont je connais pas les usages, où tout m'échappe. Et le film va essayer un petit peu de détricoter ça, tout en gardant une distance qui est celle inévitable du continental qui connaît pas ce pays parce que c'est pas le sien.
Mais c'est Pascal Gabarini qui vous ouvre un peu les portes de ça, sur la crédibilité de cette société corse.
Mais je travaille avec Pascal Gabarini parce qu'on s'entend très bien d'une part, mais il m'apporte deux choses sur ce film qui sont essentielles. C'est sa connaissance du monde carcéral, qui était importante, parce que j'ai pas enquêté sur l'affaire, mais me suis beaucoup documenté sur cette prison de Borgo et sur comment fonctionne la Corse. Et puis, il m'apporte sa connaissance, évidemment, de la Corse. On entendait l'extrait. Je me souviens que c'est toi qui m'avais parlé de ce truc de la paix des braves. Il y a une scène à un moment où ils tirent sur des cibles, on voit les cibles qui sont posées sur l'eau. C'est une image que je trouve très forte. Pascal Gabarini m'avait décrit cette scène à laquelle il avait assisté. Donc évidemment, il était là en tant que pénaliste qui connaît bien le banditisme et le monde carcéral, et en tant que Corse.
Et Mélissa, vous en avez fait une Française d'origine maghrébine, ce qui n'est pas pareil dans la réalité, donc c'est Afsia Herzi qui l'incarne. Vous arrivez à Afsia avec votre compagnon et les deux enfants en bas de cette résidence, et c'est tout de suite ambiance.
Inès, j'ai dit quoi là? Non, stop, non, tu lui rends son vélo. Et c'est pas ton vélo, non, tu lui rends, allez, hop. Ça suffit,
stop, tu arrêtes, tu lâches, avance. C'est bon, t'en achèteras un vélo si tu veux, Inès.
Non, tu demandes pas comme ça. N'importe quoi.
Oh, oh, oh. Oh, il veut quoi, le chien?
Je suis désolée, elle n'est pas méchante.
Faut le maîtriser, le chien, attention.
Elle est pas méchante.
T'as pas vu? C'est quoi ce chien qui aboie sur des gosses? Quoi,
mais elle a jamais mordu personne, elle veut jouer, c'est tout.
C'est pas la question, votre fille, elle est pas toute seule ici, ok? Elle a pas lui piqué son vélo. C'est bon, ça va, cousin, elle a pas volé. Je suis pas ton cousin. Et c'est pas la première fois. C'est la même chose, elle a pas volé le vélo. Y a pas. En tout cas, elle était dessus, elle partait avec. Stop. Si ça, c'est pas du vol, c'est quoi, là?
Mais ça va, c'est des enfants, elle a 5 ans, c'est pas ce qu'elle fait, là. Détends-toi.
Justement, je me détends, y a pas de problème. Non. Je lui apprends ce qu'il a. Moi, mon petit, je lui dis ce qu'il faut faire dans la vie. Justement,
bon,
comme toi. C'est éducation.
Ta vie, c'est bon, ferme ta gueule, on a compris.
Ferme ta gueule, tu vas faire, mais puis quoi? Parle doucement, toi aussi. C'est pas doucement. Parle doucement.
Pas savoir.
C'est un fou. Kaina, arrête. Kaina,
prends ton chien.
Ça va. Y a pas autre chose à faire que traîner tous les jours. C'est bon, ferme ta gueule. Ferme ta gueule, toi aussi.
Bienvenue en Corse. Quelques temps plus tard, Mélissa, mariée donc à Djibril, Moussa Mansali, super acteur également, découvre un régime de bananes à sa porte. Vrai? Les Corses racistes, Pascal Gabarini?
Non, bon, d'abord, il faut être clair. Bien évidemment qu'en Corse, il y a des racistes. Bien évidemment, mais comme de partout. Ouais. C'est tout, voilà. Alors, et en Corse, la particularité, c'est que la Corse est une île et son histoire a fait qu'elle a toujours été envahie. Donc, par rapport à l'étranger, d'une manière générale, quelle que soit la couleur de sa peau ou de sa confession, ce n'est pas le problème, c'est l'étranger.
Sauf que Mélissa et Djibril sont français, même si lui est noir et voilà.
Mais peu importe.
Ouais.
Peu importe.
Ils ne sont pas corses. Donc, l'étranger, quel qu'il soit, il y a une sorte de défiance jusqu'à ce que la personne soit adoptée, intégrée, j'allais dire, acceptée dans un clan.
C'était important, Stéphane de Mousty, de faire cet épisode-là, de raconter ça aussi.
Le racisme, il existe partout en France, dans le moindre stade de foot, on en voit, etc. Ouais. Évidemment, mais il existe aussi en Corse. Moi, c'est Hitchcock qui disait, on a le droit de mettre un cliché dans un film, tant qu'on part d'un cliché, mais qu'on n'arrive pas à un cliché. Ouais. Moi, ça m'intéressait là, qu'il y ait cet événement-là, qui aurait pu avoir lieu ailleurs, mais qui aurait pu aussi avoir lieu en Corse, et qui serve aussi à montrer le début de la mécanique. Parce que, certes, elle est victime d'un acte de racisme, mais certains Corses vont lui venir en aide. Sauf que ces Corses qui lui viennent en aide, de manière très pernicieuse dans le film, ce qu'on voit, c'est qu'une mécanique s'enclenche, parce qu'elle leur devient redevable.
Oui.
Et là, c'est le début d'un engrenage.
Oui.
Donc moi, j'ai utilisé ce truc comme presque un point de départ pour montrer une mécanique très pernicieuse qui s'instaure.
Elle, Mélissa, elle n'hésite pas à répondre, elle est autoritaire, elle est droite. Comment vous l'avez construite, cette femme, Afsia Herzi?
Alors déjà, le scénario était très bien écrit, le personnage très clair, et on a beaucoup échangé avec Stéphane, et ensuite, j'avais un petit peu une connaissance du milieu carcéral, avec mon précédent film Bonne Mère que j'ai réalisé.
Oui, vous avez une amie qui est surveillante.
Aussi, plus une amie d'enfance qui a été très longtemps surveillante pénitentiaire à la prison des Baumettes.
Qu'est-ce que vous avez appris d'elle ?
J'ai appris que c'était un métier très difficile. Elle me racontait souvent son quotidien et ce qu'elle voyait au quotidien. Et donc je savais à quoi m'attendre. Et après, je suis allée faire quelques ateliers de cinéma en prison. Donc j'ai rencontré des détenus et j'ai échangé longuement avec des surveillants. Et en tout cas, ce qui m'a frappée, c'est la normalité des rapports entre surveillants et détenus. Et d'ailleurs, il y a un des surveillants qui m'a dit « mais on reste des êtres humains ». Tant que ça se passe bien, on essaye d'être bien, quoi.
Mélissa, c'est l'homme du film, Stéphane de Moustier. Non, mais c'est vrai, elle a une autorité folle avec... elle ne rencontre que des...
En tout cas, ça m'intéressait de... On voit jamais au cinéma de surveillants pénitentiaires. On en voit très peu, et quand on en voit, c'est toujours des hommes. Or, il y a 30% des surveillants pénitentiaires, c'est des femmes. Il y en a beaucoup chez les hommes. Oui. Chez les détenus hommes. Oui. Donc, ça m'intéressait que ce soit ce personnage-là, dans un monde d'hommes, avec ses codes virilistes, et qui fait face. Et là... Il n'y avait que Afsia Herzi qui pouvait faire ça. C'est-à-dire que moi, je me souviens avec mon producteur, on s'est dit, voilà, si on prend un réfectoire, qu'on met 200 détenus, qui, dans le paysage des actrices françaises, peut les tenir en respect? Ben, moi, j'avais l'intuition que Afsia Herzi, elle peut. Parce qu'elle a suffisamment de caractère. Et on le voit dans cet extrait. Moi, j'adore cet extrait. Où on voit bien qu'elle est, s'il faut leur rentrer dedans, elle leur rentre dedans. Elle a cette autorité.
Vous l'avez vraiment, Afsia, dans la vie?
Là, je l'ai moins, mais je l'ai eu, adolescente.
Non, mais vous avez eu justement à contredire des types qui vous emmerdaient.
Bien sûr, oui. Mais ça, c'est de toute façon, c'est le quotidien. Et même en tant que réalisatrice, où j'étais confrontée parfois à des choses, c'était compliqué. Mais moi, ça me plaisait bien en tout cas l'idée, m'excitait bien. Ouais, j'étais contente.
Mais c'est la patronne chez elle aussi, pas qu'en prison. Je veux dire, en prison, elle est surveillante, et chez elle aussi, elle tient. Elle porte la culotte, comme on dit.
Bah, comme beaucoup de femmes.
Oui.
Beaucoup de femmes, de mamans.
C'est un portrait de femme moderne, hein, c'est
vrai. Oui, complètement. Et en même temps, elle est féminine aussi. Quand je dis l'homme, bon, c'est une image, mais c'est vrai qu'il fallait aussi garder cette féminité-là.
Oui. Oui, aussi, il ne fallait pas aussi rentrer dans un cliché. Mais, mais c'est vrai que de toute façon, surveillant et surveillante, faut que ce soit des personnes de caractère, hein, parce que le quotidien n'est pas facile du tout en prison.
Pascal Garbarini, vous avez dû en rencontrer pas mal de surveillantes de femmes?
Oui, bien sûr, mais je trouve que Afsia, justement, elle s'est complètement accaparée le rôle. Et moi, j'ai pas passé beaucoup de temps sur le tournage, mais lorsque j'y suis allé, elle était très investie. Elle était presque imperméable, c'est-à-dire qu'elle était déjà dans son rôle, dans une bulle, à la fois à l'écoute, mais elle était complètement imprégnée. Mais elle, le rôle d'une surveillante, il est très difficile en prison. Parce qu'il y a à la fois se faire respecter, mais ne faire que se faire respecter, à la fin, ça peut être dans un milieu clos, ça peut être considéré également comme du mépris de la part des détenus. Alors on va dire, on s'en fiche, ils sont là pour faire la prison, etc. Mais ça, c'est des paroles des gens qui sont à l'extérieur, qui le vivent pas au quotidien.
Mais plus,
il fallait doser, oui, c'est ça.
Oui, mais plus elle rend service, plus elle est redevable. Et forcément, les surveillantes arrivent à ce genre de situation ou pas?
Pas du tout. Là, on est dans la
fiction.
Là, on est dans la fiction. On est à la fois.
Ça a existé, ceci étant.
Non, mais c'est exceptionnel.
Ça
reste un destin exceptionnel. Oui, c'est pas heureusement. La règle.
Oui. Là, on est dans une décision qui a été prise d'eux. Vous comprenez, d'utiliser une personne.
Oui, oui.
Voilà, j'allais dire c'est tombé sur elle, comme ça aurait pu tomber sur une autre personne, comme une psychologue qui fréquente les détenus.
C'est comment Borgo, vous êtes allé pas mal, donc vous avez presque un bureau là-bas.
Là aussi, c'est une prison exceptionnelle dans le système pénitentiaire français.
Bon, déjà, Borgo, c'est une prison. Point. C'est-à-dire que, contrairement à ce que j'ai lu, ce n'est pas le Club Med. Hein. Voilà.
Mais quand on dit
d'ailleurs, que les gens du Club Med ne sont pas très contents, j'ai vu ça, qui disent
que c'est comme les gros bras.
Mais quand on dit que ce sont les détenus qui surveillent, on exagère les surveillants?
Oui, on exagère, bien évidemment. C'est que la maison d'arrêt de Borgo, en fait, c'est vraiment une règle non écrite. C'est, en gros, c'est nous les détenus, on vous fait pas chier. Pardonnez-moi de parler comme ça, mais ne nous faites pas chier. On la connaît, la prison. On sait ce qu'on doit faire et ce qu'on ne doit pas faire. Voilà, point. Donc, on ne va pas se battre, on ne va pas créer des incidents pour créer des incidents. En revanche, on se gère nous-mêmes, on est grand, on sait pourquoi on est là. Ok. Donc, ouais. En revanche, ne venez pas nous dire, tu ne mets pas le grill là, tu n'as pas le droit de faire entrer telle chose ou non. Voilà, en gros, c'est ça.
Mais il y a le régime ouvert. Vous avez vu l'état de la cuisine, là ? Vous allez avoir des cafards, hein ?
Ouais, les cafards, ils sont en unité 4. Ils sont... Il est con.
Si j'étais vous, je rigolerais pas, c'est insalubre ici. Bon, Andrea, vous venez ou j'annule votre job ? Ça fera bonne impression.
C'est bon, j'arrive.
Ah, tu peux toujours nettoyer si tu veux.
Pardon ?
Si tu trouves que c'est sale, fais quelque chose.
Je suis pas votre serviteur.
Tu es quoi alors ?
Votre surveillante et arrêtez de me tutoyer.
Allez, on joue aux cartes, on va te faire un giro.
Quoi ?
Va conduire Andrea, ça t'occupera.
Vous appelez comment ? Vous me présentez tout de suite vos excuses ou je fais un rapport?
Bon, ouais. À quoi tu joues? On n'est plus à Paris ici, hein. Je m'appelle Ours. Et après?
Vous nettoyez.
Hey, les gars, c'est quoi le sujet, là?
Le sujet, c'est qu'elle veut qu'on nettoie.
Non, je veux rien du tout, c'est pas ma cuisine. Mais si vous nettoyez pas, ça veut dire que vous êtes incapable de vous autogérer et on finira par fermer l'office. Ah, voilà.
Tout de suite, les menaces.
Non, c'est pas des menaces, c'est des conseils.
Le ménage, on le fait le dimanche.
Mais vous voyez pas que c'est sale ?
Mais qu'est-ce que tu dis ? On est bien plus propre que toi, ça tu peux en être sûr.
Non, vous êtes sale. Excusez-moi, une cuisine comme ça, c'est être sale. Vous êtes trop sale.
C'est mince, t'as tout.
En français, reculez en français.
Les gars, la raison, vache.
Il faut nettoyer, c'est dégueulasse. Qui c'est qui va nettoyer ?
Moi, je veux bien le faire, hein. Et si tous ceux qui servent la cuisine, ils s'y mettent, en 5 minutes, c'est plié.
Ouais, vas-y, dès la raison.
Allez,
oh, les gars. Pas ce coup, bien.
Stéphane de Moustier, il y a une femme qu'il faut saluer, c'est Julia Lyonne.
Ouais.
Hein, pour le casting incroyable.
Ouais, Julia Lyonne qui fait les castings de Peretti.
Ouais.
Excellent cinéaste corse. Et qui a fait une sorte de plan épervier en Corse, on peut pas appeler ça autrement. C'est-à-dire qu'elle a mis des annonces partout, dans les cafés, dans les boulangeries. Et elle a sillonné la Corse pour trouver des jeunes gens qui puissent jouer dans ce film. Pour moi, c'était essentiel. Faire un film, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'à chaque fois, on découvre une arène, on découvre aussi un territoire et les gens qui habitent ce territoire. Et là, en faisant un film en Corse, moi, je voulais évidemment aller à la rencontre de ces Corses et aller aussi. Déjouer les clichés que je pouvais en avoir d'ailleurs. Donc il fallait que avoir des gars des Corses quoi, qui viennent de là-bas et elle les a trouvés. Ils ont un art du jeu, goût de se mettre en scène, un goût de se prêter aux situations qui est chevillé au corps. Et en face d'eux, il fallait quelqu'un qui donne le change sans que c'est l'air artificiel. Et c'est là aussi qu'Afsia Herzi était hyper précieux. C'est que Afsia a un truc de vérité. Elle n'est pas en train de fabriquer en face d'eux et donc l'alchimie s'est totalement faite.
C'était comment Afsia de jouer face à eux ?
Bah, c'était super, franchement. En plus, pour la plupart qui n'étaient pas acteurs, vraiment, j'avais l'impression qu'ils avaient fait ça toute leur vie.
Ouais.
Et non, c'est super, c'était très sympathique.
Mais quand on dit qu'il est dans la vérité, tous les acteurs devraient être comme ça, non ? C'est-à-dire que quand vous jouez, c'est la vérité ?
Ben, on essaye en tout cas, on essaye. C'est pas tout le temps, mais on essaye. Après, ça dépend du metteur en scène. C'est vrai qu'avec Stéphane, pour un acteur, c'est top, quoi, parce qu'il dirige bien, il a l'écoute, c'est un travail au quotidien. Et c'est très bien écrit, donc...
Je pense qu'il y a des codes de jeu quand même, il y a des acteurs plus ou moins techniques, des acteurs, voilà, Afsia, elle a besoin que ça vienne totalement d'elle pour s'accaparer une scène, et tant mieux. Tout à l'heure, on a entendu Jean-Étienne Frisoni dans la première scène où on voyait, où on entendait le surveillant qui faisait visiter la prison.
Oui.
Lui, il est surveillant à Borgo.
Ah oui.
Il a travaillé 20 ans là-bas, il y est toujours.
Oui.
Et ça aussi, c'était super précieux. C'est-à-dire que, d'abord, on a l'impression qu'il a joué toute sa vie, lui aussi. Mais c'était super précieux d'avoir des gens qui connaissaient très bien la prison pour nous dire, c'est pas un documentaire sur Borgo, mais pour nous dire, à moi, metteur en scène, à Afsia aussi, voilà, dans telle situation, on agit comme ça, dans telle situation, on se déplace, on se meut de cette manière-là, on met le pied là, on met la main ici. Ça, c'est des trucs de vérité qui sont pas indispensables, mais qui nous aident et qui, en fait, sous-tendent le travail.
Quoi. Ce sont des acteurs aussi, ces gardiens, ils ont un public, hein, et il faut qu'ils tiennent une note face à ce public extrêmement compliqué.
Ouais, on peut
dire ça comme ça.
On peut également
N'oublions pas que la Corse est de tradition orale, c'est-à-dire que donc et ça c'est vrai.
Ouais.
Donc on a l'habitude de conter des histoires. Donc ça veut dire que ces personnes-là, lorsqu'on leur donne un dialogue, bien évidemment elles vont s'y tenir, mais si elles en sortent, ça fait encore plus vrai parce que ils ont l'habitude d'être des conteurs.
Ouais.
Voilà. En Corse, on dit toujours bon, on va boire le café. On va boire le café et là, qu'est-ce qu'on fait ? On se raconte des histoires. Vous voyez ce que je veux dire ?
Ouais.
Alors drôle, pas drôle, etc. Mais on se raconte des histoires.
C'est vrai, c'est très artiste, hein, c'est ouais. vrai. Hein.
Je le disais, le thème du film, c'est comment et pourquoi on passe de l'autre côté, hein, finalement, Stéphane de Moustier. J'ai lu dans Le Monde, c'est une version insulaire du syndrome de Stockholm.
Ah ouais, j'avais pas lu ça, mais pourquoi pas.
Ouais.
Non, en tout cas, ce qui est vrai, c'est que tout à l'heure, on parlait de cette fameuse phrase, c'est les surveillants, les gardiens, les détenus qui surveillent, ouais. Les surveillants. Ce qui est vrai, c'est que dans le film, moi, je me suis amusé de ça, c'est-à-dire que Lille, par nature, étant imposant un régime d'enfermement, finalement, quand elle est chez elle, aussi, dans sa maison, dans son appartement, elle est sous régime de surveillance. Oui. Et ça, je trouvais que c'était hyper intéressant de la montrer presque plus libre dans la prison, où elle finit par comprendre les codes qu'on lui expose dans la scène qu'on vient d'entendre. Elle finit par les comprendre et par s'en emparer, et donc, elle finit par trouver sa place. Elle trouve une forme de bien-être quand elle est dans cette prison, et quelque chose de presque plus fluide que quand elle est en dehors, ou là, à l'extérieur, ouais, elle est totalement, tout le temps, en fait, sous contrôle.
Oui. Elle est face à une autre femme qui est la directrice de prison, qui est la super Florence Loirecaille. Ouais. Vous avez rencontré beaucoup de femmes directrices de prison ?
En fait, j'ai rencontré plusieurs directeurs de prison, et chaque fois que j'arrivais au rendez-vous, c'était une directrice. Et là, j'ai compris que c'était une profession, en fait, très féminine, et qu'il y avait aussi eu des femmes à Borgo, d'ailleurs, et donc je me suis dit que c'était très intéressant. On l'a dit tout à l'heure, c'est Mélissa, jouée par Afsia, un personnage de femme dans un monde d'hommes.
Oui.
Mais je voulais pas réduire sa situation à cet antagonisme-là.
Oui.
Et d'avoir une directrice de prison qui, à un moment, va la lâcher, en fait. Oui. Parce que les principes de hiérarchie, de place dans la hiérarchie sociale, vont être plus forts que de solidarité féminine. Et ça va contribuer à l'isolement de Mélissa. Donc j'aimais bien, en fait, qu'il y ait cette femme. Je trouvais que ça apportait encore une couche de complexité sur ce que c'est le fonctionnement de ces administrations-là. Et donc j'ai pris Florence Loirecaille, qui est parfaite dans ce rôle. Et j'ai eu beaucoup de plaisir à avoir pour ça.
C'est un rôle difficile à tenir, qu'elle a à tenir cette Mélissa, parce qu'elle a des journées folles. Elle doit être, non mais elle doit avoir une certaine autorité avec ses hommes, et par rapport à son mari, elle doit être une femme, une mère, une épouse, une gardienne. C'est énorme, en fait, à jouer.
Ouais, grosse charge mentale, bah en fait, en même temps, c'est universel, hein, comme beaucoup de gens qui travaillent au quotidien et qui ont leur vie de famille à côté, qui ont le double travail au quotidien. Mais en tout cas, ce qui était difficile à tenir, en tout cas, c'est la tension. Mmh. Parce que c'est un personnage tout le temps sous tension, on va dire, intérieure. Donc ça, c'était pas évident.
Mais tout à l'heure, vous avez dit à juste titre que c'était un polar. Et j'y tiens, j'adore les polars. Mais c'est aussi un film social qui ressemble à un polar. Et c'est vrai que cette femme, elle est de conditions modestes, un métier invisibilisé et peu reconnu, peu considéré. Donc évidemment, elle gagne peu d'argent, elle doit tenir sa famille, tenir son métier, etc. Et elle doit porter toute cette charge. Et moi, j'y tenais, ça fait partie de la richesse du personnage. Et évidemment, faire face à toutes ces contingences, ça peut exercer un poids qui est parfois excessif.
Borgo commence avec une scène absolument géniale, on se croirait effectivement chez Melville. On est dans une voiture avec Michel Faux à l'avant qui est énervé parce qu'il ne trouve pas de feu, parce qu'il veut fumer d'ailleurs les cigarettes.
Et qui est extraordinaire dans le film.
Ouais, et ça revient pas mal, hein, l'idée de la cigarette. Bon, bref, on ne dit pas pourquoi. Et parce que l'autre film dans le film, effectivement, c'est l'enquête menée après l'assassinat, alors que ça commence, il va à l'aéroport et il voit ses deux victimes. Le film est construit, mais hyper subtilement, sur deux temporalités. La temporalité de l'acte, et c'est ce qui s'est passé avant, et sur l'enquête. Et ce qui est fou, Stéphane de Moustier, c'est qu'on a l'impression que les flics, ils ne regardent que des images. Hein, ils regardent l'écran, les images de l'aéroport. C'est comme s'ils regardaient un film dans le film.
Les films, les deux policiers sont presque dans une autre réalité. Et d'ailleurs, ils obéissent même, moi, dans le mise en scène, etc. C'est presque d'autres codes de jeu. Ils sont dans une autre réalité parce que déjà, c'est des continentaux. Parce que là-bas, les institutionnels sont tous des continentaux. Ils sont cantonnés à leur bureau. Et ils regardent énormément, effectivement, d'images vidéo, puisque c'est ces images qu'ils analysent. Alors moi, ça m'intéressait de montrer qu'est-ce que c'est un régime d'images, qu'est-ce que c'est une vidéosurveillance, ces images qui montrent tout, mais qui comprennent rien, en fait. Ça m'intéressait beaucoup. Puis ça m'intéressait de montrer une enquête policière qui ressemble pas une enquête policière comme on en voit habituellement dans les films, mais qui ressemble plus à ce qu'il y a dans les commissariats. Donc ils se heurtent à des résistances humaines, matérielles aussi. Et tout à l'heure, vous avez dit, ça ressemble à Melville. Ça me touche beaucoup parce que j'adore Melville. Et puis j'avais dit à Michel Faux, pour ce rôle, on va faire comme Mattei, joué par Bourvil dans Le Cercle Rouge. C'est-à-dire, vous n'allez rien faire. Michel Faux, il est extraordinaire quand il se travestit, il est extraordinaire quand il chante, il est extraordinaire quand il est exubérant.
Mais là, on l'avait jamais vu.
Profil bas. Et même quand il fait profil bas, il se passe mille choses et c'était un bonheur de l'avoir.
C'est vrai.
Monsieur Mattei, vous ne saviez pas qu'un suspect doit être considéré comme un coupable ?
Pas pour moi, monsieur l'inspecteur général. Il m'est passé entre les mains tant de suspects qui étaient innocents.
Vous voulez aille ? Il n'y a pas d'innocents. Les hommes sont coupables. Ils viennent au monde innocents. Mais ça ne dure pas.
Monsieur l'inspecteur général, mon directeur vient vous dire que seule la chance peut rattraper vos gels, dorénavant. La chance est moi, en vérité.
Monsieur Mattei, je ne mets pas en doute votre bonne volonté. Par contre, permettez-moi de me montrer sceptique quant à l'efficacité dont vous faites preuve dans l'arrestation des coupables.
Pascal Garbarini, vous connaissiez par cœur les répliques.
Absolument. Oui. Et puis à la fin, il appelle sa secrétaire, c'est le directeur général de la police, il dit « Apportez-moi le dossier de ce monsieur Mattei, parce qu'un corse blanc aux yeux bleus...
» Ça ne va pas du tout.
Bon, là, on va rendre hommage à Michel Faux, parce qu'il est assez exceptionnel, avec son adjoint Pablo Poli. C'est presque... Je ne sais pas, ils sont drôles tous les deux, c'est un peu des...
C'est un binôme burlesque, ils ont deux énergies tellement différentes. Ouais. On a le vieux policier désinvolte ou résigné, et
fataliste,
le jeune premier fataliste, ouais. et le jeune premier à côté, plein de bonne volonté et plein d'énergie. Donc évidemment, il y a un effet comique, et c'était volontaire. J'avais envie de montrer l'absurdité de leur recherche, et puis ça donne une respiration que je trouve très bienvenue dans le film.
On les écoute.
On a retrouvé la voiture utilisée par le tueur. Le véhicule est inexploitable, totalement calciné, mais on a pu récupérer l'immatriculation et comme on s'y attendait, c'est une voiture volée.
Et donc, votre conclusion ?
Rien de très original. C'est un contrat dans le cadre d'un règlement de compte entre deux groupes rivaux. Vous connaissez les victimes aussi bien que nous. Pascal Rossi était en fin de peine et il revenait de permission. C'était la dernière occasion de l'attraper avant qu'il soit libéré et qu'il disparaisse dans la nature. Et la deuxième victime, Joseph Marchetti. Alors lui, venait d'avoir sa conditionnelle. Bon, il a davantage un profil de petite main. Là, il venait chercher Rossi à l'aéroport, mais je pense pas qu'il ait été ciblé. C'est juste une victime collatérale.
Et donc, qu'est-ce qu'on fait ?
C'est à vous de me le dire, monsieur le juge.
Qui est le tueur à gage ?
On sait pas, il a laissé aucune trace.
On a une scène de crime, on a forcément des traces.
Le tueur a agi très calmement, de manière très professionnelle, on n'a rien trouvé.
On n'a rien trouvé pour l'instant. On a deux morts en plein jour, dans un lieu public, il faut chercher un peu plus.
Nous menons notre enquête.
Alors activez le mouvement. Si vous me dites que c'est un contrat, je veux connaître les commanditaires. J'ai pas l'impression que ce soit une demande extravagante.
Bien sûr.
Allez, au travail, j'attends de vos nouvelles.
J'aime bien comment il dit « bien sûr ». Et vous poussez le vice jusqu'à se faire croiser les deux protagonistes, lui et Mélissa.
Oui, à un moment donné, effectivement, le personnage de Mélissa...
Au tabac.
Va au tabac prendre des cigarettes,
ouais.
Et elle le croise. Parce que la Corse est un village. En Corse, c'est une réalité locale. Tout le monde se connaît, tout le monde est amené à un moment à se croiser, et je trouvais que ça manquait pas d'ironie de vraiment voir ça. En Corse, il y a aussi une porosité entre la société civile et le milieu, parce que il y a cette proximité géographique, parfois familiale, qui est une réalité de cette île. Donc c'était à la fois un clin d'œil, mais ça raconte quelque chose de cette île de jouer avec ça. Je tiens à dire que dans l'extrait qu'on a entendu, c'était le producteur Jean Desforêts qui faisait le juge au téléphone.
Ah oui.
Et c'est,
il le fait très bien.
Je trouve admirable.
Pascal Garbarini, sur la Corse, c'est difficile de faire un film assez juste ou pas?
Non, pas du tout. La Corse.
C'est délicat. Dès qu'on entre dans un fait divers comme ça, même s'il est fictionné.
De toute façon, comme je l'ai dit tout à l'heure, les Corses adorent raconter des histoires. Donc, bien évidemment, on se nourrit en créant des polémiques aussi. Et puis, vous voyez, c'est encore une fois, la Corse, c'est bon, entre guillemets, c'est mon pays. Donc, bien évidemment, j'en suis fier, mais elle a ses propres codes. Voilà, elle a des codes sociétaux qui sont très particuliers, qui sont difficiles à admettre. Ils ne sont pas mieux que les autres codes de d'autres sociétés, mais ce sont les nôtres. Bon, à partir de ce moment-là, bien évidemment, il peut naître des polémiques par rapport à des prises de position, parce que tout le monde aime les commenter. Tout le monde aime les commenter, à juste titre ou non. Là, encore une fois, ce film, il est extraordinaire, mais c'est un film. C'est-à-dire, bien évidemment, on est parti d'un fait divers, mais le fait divers ne nous intéresse pas. C'est un décor. C'est un décor, et pour les passionnés de cinéma dont je suis, avec vraiment des acteurs et un metteur en scène qui ont pris la mesure de cette identité corse et de la vie en Corse, voilà, et qui se font que ce soit la matone, etc. On voit qu'il y a une prise de possession volontaire ou pas, mais ensuite volontaire des codes sociétaux. Mmh. Le metteur en scène qui justement s'est focalisé sur ces codes pour les expliquer. Donc c'est ça un film. Donc au contraire, on devrait s'enorgueillir que la Corse intéresse le cinéma. C'est l'inverse. Rappelez-vous le film. Moi, j'adore ce film. Le fils. Avec Yves Montand, oui. Léa Massari, Marcel Bozoufi, c'est des films, on en parle encore.
Le Caïd qui était à New York et qui revient dans son village. Ouais.
C'est magnifique.
Ah. Vous pourrez aller en vacances en Corse cet été, Stéphane de Moustier ?
Je ne sais pas, mais en tout cas, moi je retiens... on a fait le film avec le soutien de la région Corse, on a fait le film avec des acteurs corses merveilleux, avec des techniciens corses, et on a tourné dans la région d'Ajaccio, on a été merveilleusement accueillis, et c'était en fait un grand bonheur ce tournage.
Mais une alerte à la bombe.
Il y a eu une alerte à la bombe à Ajaccio lors de la première projection du film. La projection a quand même eu lieu et pareil là aussi c'est ce que je veux retenir. Je pense qu'il faut aussi. J'invite les gens à voir le film pour comprendre aussi quel est le geste, qui est sans présomption un geste.
Il n'y a pas de caricature, il n'y a pas de cliché. C'est
voilà. J'ai essayé de regarder. Tout à l'heure, je disais, il s'agit de montrer la complexité de cette surveillante pénitentiaire, de montrer qu'elle est tirée par des sentiments contradictoires et qu'on puisse se reconnaître en elle, c'est-à-dire sans être complaisant avec elle, ne pas la juger non plus.
Non, c'était pareil. Personne,
et c'était pareil pour les Corses. C'est-à-dire que les Corses, je voulais les montrer dans leur humanité, sans tomber non plus dans les caricatures. On voit pas des détenus avec des gueules patibulaires, etc. Non, on les voit dans leur humanité. On les voit aussi dans leur vulnérabilité, parce qu'on comprend qu'ils s'inscrivent dans un système, que eux-mêmes doivent rendre des comptes, etc. Et je voulais, essayer de révéler, parce que je découvrais ce fonctionnement au-delà des clichés, des caricatures.
Jusqu'à cette dernière image qui est absolument incroyable. Je me rappelle pour La fille au bracelet, je vous avais dit que votre scène d'ouverture était très Haneke, et je trouve que cette fin est très Haneke, justement, et cette image. Non, c'est du grand cinéma.
Il y a beaucoup de cinéma. On a beaucoup parlé ici de faits divers, de Matone, etc. Mais il y a énormément de cinéma dans ce film, et c'est pour ça qu'on l'amène.
Sans révéler la fin, parce que j'ai envie que les spectateurs aillent voir le film et qu'ils découvrent cette fin. Ce qui était important pour moi, c'est qu'à toutes les étapes du film, le spectateur ait sa place. C'est-à-dire que moi, je suis les agissements, les va-et-vient du personnage de Mélissa, mais en essayant de me mettre à une distance qui laisse la place au spectateur.
Vous ne me prenez pas pour des idiots. Non.
Oui, je veux que le public puisse être actif s'emparer de cette histoire et se demander pourquoi elle glisse. Et je pense que selon les spectateurs, on n'identifiera pas les mêmes raisons. Et dans cette fin, c'est la même chose. Je pense que cette fin, elle ouvre aussi sur pas mal de possibles.
Exactement.
Et selon la sensibilité des spectateurs, la manière dont il reçoit les choses, il investira différemment.
Ça s'appelle Borgo, c'est un grand film. Il sort mercredi prochain. Pascal Garbarini, Afsah Herzi, Stéphane de Moustier, vous restez avec nous. On se retrouve pour parler des sorties et un petit peu de Cannes, avant TK Meza 1-1. You remind me of a guy that I let go. You remind me of a friend that got too close. You remind me of a man that lied to hold me up. You playing games on the low, but you ain't 1-1. You remind me of a guy that I let go. You remind me of a friend that got too close. You playing games on the low, but you ain't 1-1, 1-1. Started friendly, ended with some promises empty. Blocking all these messages you sent me. Falling for you never was the truth. Who is you? Peace of mind, see you trying to bang on my line. Give me back all my keys, I'm tired of letting you inside. I can lie. At a moment where I tried. Let it go overnight, overhype. Drop your light. Testing my patience, it's dangerous to play. It's giving me basic and it ain't enough. Could have been weighing my options. Not wasting my time. Now I know why. You remind me of a guy that I let go. You remind me of a friend that got too close. You remind me of a man that lied to hold. You playing games on the low, but you ain't 1-1. No. You remind me of a guy that I let go. You remind me of a friend that got too close. You remind me of a man that lied to hold me up. You playing games on the low, but you ain't 1-1, 1-1.
France Inter. On aura tout vu. Christine Masson et Laurent Delmas.
Avant de parler des sorties, Laurent, un petit mot sur cette sélection cannoise annoncée cette semaine, cette 77e édition, parmi les 2000 films visionnés. Dans cette compétition, 4 femmes, moins que l'an dernier pour l'instant, 5 français, même si l'une est avec les Américains, un seul premier film, 2 ex-palmés, Audiard et Coppola, pas mal d'habitués finalement, Cronenberg, Sorrentino, Lanthimos, Serebrennikov, Arnold et Jasenke, et puis des petites surprises, Gilles Lelouch.
Oui, on va pas faire le procès d'intention.
Non.
On n'a pas vu les films. Bon, voilà, on va garder notre âme d'enfant et notre enthousiasme permanent pour partir à Cannes et on vous racontera justement ces films.
Parce que les femmes, elles sont ailleurs. Il y a aussi Claire Simon, Yolande Zoberman. Il y a des actrices, réalisatrices, Noémie Merlant, Ariane Labed et Laetitia Doche. Je dis ça pour, en regardant Afsia Herzi. En tout cas, pour l'instant, cette semaine est sorti un film incroyable qui s'appelle Le mal n'existe pas du cinéaste japonais Hamaguchi. Takumi et sa petite fille Anna mènent dans un village une vie modeste en harmonie avec leur environnement. Le projet de construction d'un camping glamour dans le parc naturel voisin va mettre en danger l'équilibre écologique du site. On dit ça mais on ne dit rien finalement. Tellement ce film plein de grâce vous enveloppe dans un mystère, et le mystère est la cruauté de cette nature, la douceur des rapports père-fille, l'avidité des gens de la ville et la fable politique cachée derrière. À quoi reconnaît-on parfois un grand film? À la capacité de vous faire voyager jusqu'à cette conclusion fantastique ouverte qui laisse à chacun son interprétation, c'est sa liberté de spectateur.
Oui, au fond, pourquoi cet enthousiasme? Parce que le moins qu'on peut dire, c'est qu'il est partagé. Hein. Il y a nos confrères critiques sont absolument d'accord avec ce que, tout le bien qu'on peut dire de ce film. Ben parce que je crois qu'il est, dans le cinéma tout entier. Il est du cinéma tout entier. Il y a des décors, une petite ville, des forêts, et ces espaces sont filmés avec une attention et une intelligence incroyable. Il y a un scénario qui ne cesse de procéder par surprise du spectateur. Je trouvais que c'était tout à fait étonnant jusqu'au dénouement dont vous parlez et dont on ne dira évidemment rien, mais qui est extraordinaire. Et puis il y a aussi, par exemple, une musique de Eiko Ishibashi, j'ai noté son nom parce qu'elle est extraordinaire. Il était déjà là pour Drive My Car, mais là, la musique est permanente et elle est magnifique. Bon ben voilà, c'est ça l'enthousiasme pour un film, c'est qu'il y a énormément de cinéma dedans, et puis il y a une humanité avec un certain nombre de choses sur nous, les autres et la nature, un certain nombre d'avertissements qui font du bien à voir et à entendre. Le mal n'existait pas, le mal n'existe pas.
C'est un drôle de titre, il ne faut pas le garder en tête pendant le film, parce qu'il est troublant. Voilà.
Mais il est aussi troublant que le film, après tout, c'est pas mal.
Rosalie de Stéphanie Di Gusto. Rosalie est une jeune femme dans la France de 1870. Elle cache un secret depuis sa naissance. Son visage et son corps sont recouverts de poils. C'est une histoire inspirée librement de l'histoire de Clémentine Delay. C'est le thème de la différence, Laurent, et de la tolérance dans une approche féministe. Mais classique.
Oui, il y a incontestablement un sujet, la femme à barbe, une émancipation féminine qui en découle. Le problème, c'est que la réalisatrice a du mal à tenir la note jusqu'au bout, parce qu'un film, c'est pas seulement une idée, c'est pas seulement une idée de départ, même c'est pas seulement une situation extrêmement particulière et singulière. Il faut tenir la note, il faut prolonger le film, peut-être nous surprendre. Alors c'est joli, les décors, tout est bien fait, les costumes sont bien. Il y a un casting, notamment de second rôle, où on croit Benjamin Biolay et Juliette Armanet, bon, tout à fait saisissant et intéressant, mais il y a cette espèce de frustration qu'on a tout au long du film que d'avoir le sentiment que le film ne décolle pas réellement.
Par-delà les montagnes de Mohamed Ben Attia, Rafik, un homme d'apparence ordinaire, semblait avoir tout pour lui jusqu'à sa condamnation à 4 ans de prison pour un accès de folie que son entourage ne parvient pas à expliquer. À sa sortie, il décide d'enlever son enfant et de l'emmener dans les montagnes pour lui révéler son incroyable secret.
Ouais, alors c'est le réalisateur de Mon cher enfant, qui était un film très très séduisant, très intéressant. Là, on reste un peu perplexe devant les hésitations, me semble-t-il, du cinéaste lui-même. Il oscille sans cesse entre plusieurs pistes qu'il explore. Alors, est-ce qu'on est dans du réalisme poétique, dans une fable, dans un pamphlet politique très fort? Il y a plusieurs... comme ça, routes qui sont explorées, un champ social, et à force de ne pas choisir, à force de laisser les choses planer comme ça, je trouve que le cinéaste nous perd un peu en route, hélas.
Nous, les Leroy, premier film de Florent Bernard. Quand on ne croit pas au couple formé par Charlotte Gainsbourg et José Garcia, c'est difficile d'avaler la suite. Charlotte Gainsbourg, donc, dans une banlieue pavillonnaire, d'accord, mariée à José Garcia, bon, décide au bout de 20 ans de le quitter. Et lui, pour la reconquérir, lui propose un week-end avec leurs deux ados, suite à un road trip dans les zones commerciales, les hôtels cheap autour de Dijon, Garcia en gros lourd comme pas mal de sketchs. On est loin de Joe D'Apato, pourtant il en fait référence, parce qu'en fait il va pas à l'extrême dans le délire comme le fait l'Américain. Non, là où le film vraiment fait mouche finalement, c'est dans l'émotion provoquée surtout par les deux adolescents.
Oui, alors moi j'ai lu, c'est touchant, drôle, émouvant, sensible, c'est entre Delépine et Carverne et la famille Bélier. Bon, oui, peut-être, je ne sais pas. Mais quand j'entends des dialogues comme le suivant, entre José Garcia qui dit « j'ai réfléchi cette nuit » et la réponse de Charlotte Gainsbourg c'est « ah merde », j'ai l'impression quand même que je pense que les scénaristes pourraient faire autre chose que du dialogue entre potes, quoi, voilà. C'est de ce niveau-là, et c'est bien dommage, et c'est assez paresseux.
Quitter la nuit, premier film de Delphine Girard. Une nuit, une femme en danger dans une voiture appelle la police, c'est un début haletant. Anna prend l'appel, un long échange et le temps de localiser le véhicule et d'arrêter l'homme. Le lendemain, elle, Ali, a été victime d'un viol et porte plainte. Tout le reste du film va analyser la difficulté pour elle d'aller jusqu'au bout de la procédure. En même temps, le film analyse le point de vue de l'homme, soutenu par sa mère. Et troisième protagoniste, la femme flic obsédée par cette histoire. Du déni à la prise de conscience, c'est une exploration méticuleuse des conséquences du viol sur la victime.
Il y a un premier quart d'heure qui est absolument saisissant, vraiment. Là, on est dans du cinéma, beaucoup. On a quelque chose qui attire l'attention, qui est extrêmement réussi. Alors, il faut juste savoir que c'est en fait la reproduction du court-métrage que la réalisatrice a fait en 2020, qui avait été nommé aux Oscars, donc c'était extrêmement talentueux. Alors là aussi, on a un petit problème de droit de suite, en quelque sorte. C'est-à-dire que le début est tout à fait saisissant. Après, moi, j'ai l'impression qu'elle n'évite quand même pas certains clichés et de la sororité et de la masculinité, parce que c'est bien son propos avec par exemple des personnages comme la mère jouée par Anne Dorval qui me semble être trop chargée. Voilà, c'est un peu dommage, on attendait une amplification plus forte de la situation.
Vu tout ce qu'on entend en ce moment, Laurent, je trouve que c'est une très... Vraiment, on est dans la position de cette femme et du déni à la prise de conscience. Voilà, je trouve ça assez fort, mais bon. Amour déchu, c'est un film de 1986 du cinéaste hongkongais Stanley Kwan. Trois amis au rêve de gloire. Ça s'arrête lorsque l'une d'entre elles est retrouvée morte. Entre l'étude de caractère, le faux polar et le drame, avec la future star Tony Leung dans In the Mood for Love et Cho Yun-fat, le syndicat du crime.
Oui, alors c'est très étonnant parce que c'est un cinéaste hongkongais dont on entend parler au compte-gouttes en France, Stanley Kwan. Et c'est bien dommage parce qu'à chaque fois qu'on voit un film, on est absolument séduit, sous le charme, enfin persuadé qu'il y a un vrai cinéaste. Là, cette espèce de mélo avec des multiples facettes, c'est burlesque parfois, c'est ultra-violent, il y a une intrigue policière en quelque sorte, un polar, mais c'est aussi un film d'amour et d'amitié. Le résultat fait que le charme est assez indéfinissable dans ce mélange de charme et d'intérêt. Et on se demande vraiment pourquoi il faut attendre autant de temps pour voir, hein, 1986 c'était quand même pas hier, pour voir ces films-là. Voilà.
Vous étiez même pas né d'ailleurs en 86. Voilà. Sans cœur, c'est un premier film de Nara Normand et Tiao en 96, été. Un village de pêcheurs dans le nord-est brésilien. Tamara profite de ses dernières semaines avant de partir pour ses études. Un jour, elle entend parler d'une adolescente surnommée Sans cœur en raison d'une cicatrice qui traverse sa poitrine.
Oui, il faut signaler que c'est un film coproduit par l'excellentissime Kléber Mendoza Filho, un grand réalisateur italien, et c'est un gage de qualité. C'est une chronique douce amère.
Il est brésilien.
Qu'est-ce que j'ai dit ?
Italien.
Bon, n'importe quoi, brésilien, bien sûr, pardonnez-moi. Et c'est un très très beau patronage en quelque sorte, avec une mise en scène élégante, soignée au dernier degré, c'est très très agréable. Et dans le même temps, le film parle politique, c'est aussi une marque brésilienne, je trouve, de différence sociale. C'est une vraie réussite parce qu'il y a une subtilité, une complexité, le tout en 90 minutes, pas plus, et c'est très bien comme ça.
Les aventuriers de l'Arche de Noé de Sergio Machado et Aloïs Di Leo. C'est de l'animation, oui, 3D. Oui, oui. Vinny et Tito, deux souris artistes de musical, voient leur rêve de succès tomber à l'eau lorsque la Terre est noyée par le déluge. Aidés par un coup de pouce du destin, ils réussissent à monter à bord de l'Arche de Noé et propulsés au beau milieu d'un différent opposant les animaux herbivores et carnivores, ils ont la solution parfaite pour apaiser les tensions, un concours de chansons.
Oui, c'est ça, voilà la Starac. Bon, ça démarre plutôt mal, mais en fait, ça trouve un rythme avec cette animation en 3D assez rapidement, et là, franchement, ça dépote bien. C'est destiné aux plus de 5 ans, hein, manifestement. Le problème, peut-être juste, c'est que les accompagnateurs de plus de 30 ans finiront par être saoulés de musique et d'images. Mais c'est bien le but recherché, donc ça fonctionne.
Et on l'a reçu la semaine dernière, Sébastien Lifshitz, on indique la sortie de son film Madame Hoffman sur cette cadre infirmière à Marseille.
C'est un bijou, c'est une grande femme, une grande soignante comme on rêve d'en avoir évidemment tout le temps dans le service public hospitalier, et ça pose vraiment l'avenir de ce service public.
Oui, un festival à annoncer pour les enfants à
Le PASS Festival Cinéma Enfants Télérama, ouais. Du 13 au 30 avril dans 200 salles d'art et essai en France, c'est 3€ la séance, ça permet de revoir ou de voir 15 films, Marietti, Ma vie de courgette, Chanson sous la pluie, Chicken Run, Mon ami Robot, etc.
On a 2 minutes pour 3 cadeaux, donc tout va bien.
Très bien, tout va bien. Alors, on a un peu cherché dans un équivalent Bourgo pour vous, Stéphane de Boussier. Ben, on l'a trouvé. Ça s'appelle Ces messieurs de la santé. Ça vient de ressortir. Ça date de 1934. C'est avec un Rému en super forme. C'est un film de Pierre Colombier, Edwige Feuillard, Pauline Carton, Lucien Barou. C'est édité, chez Pathé. Et c'est extrêmement réjouissant.
Vous connaissez ça, Pascal Garbarini?
Non, des années 30.
Non, vous connaissez pas, alors que vous adorez Rému, en plus.
Bon. Merci. Bon. Pour vous, Adrien Herzi, un film de 1969, et quel film, L'amour fou de Jacques Rivette, qui est un film en extrême liberté, on est juste après 68, c'est Bulogier face à Jean-Pierre Calfon, entre autres. Il y a de l'improvisation, il y a du temps long, c'est 4h12 de cinéma, et croyez-moi, ça rend super. Extrêmement heureux. L'amour fou, merci. Jacques Rivette, c'est chez Potemkin.
Et enfin, vite, très
et puis
vite.
Pour vous mettre un film de procès, Le retour de Martin Guerre, bye face à Depardieu, ça discute beaucoup. Qui est qui? C'est chez Tamaza, et là, c'est la musique de Michel Portal, film de 1982. Formidable, ça se passe au XVIe siècle en Ariège.
Merci à Pierre Herzi, merci Stéphane de Moustier, merci Pascal Garbarini. Et Borgo, ce grand film sort mercredi prochain. Merci à notre belle équipe, Xavier Pestudia à la réalisation, Christophe Magère à la préparation et Thierry Dupin pour la programmation musicale.
Merci à eux.
Au revoir et pace, salut.
Salut.